Et tout de suite, comme l'année dernière, et donc comme chaque jour en 2016, sur les docks avec vous, Irène Omelianenko. Bonjour et bonne année.
Oui, bien bonne année Hervé Gardette, à vous et bien sûr à tous nos auditeurs.
Et on ne va pas changer notre tradition, comme chaque lundi, vous allez nous présenter le programme.
Exactement. Alors même ce mois-ci, sur les docks, va s'intéresser aux radios qui, aux quatre coins du monde, se veulent des alternatives aux discours dominants et parfois aux régimes autoritaires. Alors le premier de ces quatre jeudis, intitulé « Making Waves », par Alexandre Planck, nous conduira à Bangui. Mercredi, Catherine Remoissonnet enquêtera sur la peur du dentiste. Mardi, Nicolas L'Espagnol Rizzi ira sur les lieux de l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre à Paris et Lyon.
Et aujourd'hui, Irène, vous nous conduisez chez un amoureux des mots, Marcel Moreau.
Oui, Hervé, Marcel Moreau, c'est un enfant de mineur, orphelin de père à l'adolescence. Il se caractérise ainsi, corps verbal dans corps charnel. Alors il a une admiratrice qui a été touchée par la phrase « l'écriture m'a humanisée » et qui a décidé de produire un entretien à l'ancienne. Elle s'appelle Laurine Rousselet et elle rencontre un jeune homme qui écrit à bride abattue, entraînant dans son sillage Denis Lavant et Nicole Caligaris.
Comment écrire en étant possédé des mots, en donnant la parole à des forces, des ébranlements, des secousses? Comment vivre plus de 60 années au service de la création avec les mêmes obsessions? L'amour, l'art, la passion, la mort. Marcel Moreau, écrivain français d'origine belge, né le 16 avril 1933 à Boussu, c'est l'histoire du verbe dans un corps, et le reflet de ce que vit l'écriture dans un corps. Corps biologique, sensuel, fou, sauvage et pensant. Si son aventure intérieure est emplie d'orgies, de cruautés, de tourments et de jambages tourbillonnaires, son exubérance vitale est synonyme de santé. Son œuvre, constituée d'une multitude d'ouvrages, est pour moi l'une des plus captivantes de la littérature française contemporaine. Pourtant, le mot « littérature » n'a jamais satisfait Marcel Moreau.
Bonjour. Bonjour.
Nous vous réveillons.
Oui. Crois que c'est demain qu'on veut se voir.
C'est aujourd'hui.
Ah bon ?
Voici Marcel Moreau, le possédé des mots.
Ça ne dérange personne que je fume ?
Pas du tout. Comme pour Marina Tsvetaeva, pour qui il ne s'agit pas du tout de vivre et écrire, mais de vivre écrire, vous avez toujours su accommoder votre travail littéraire enragé à votre existence quotidienne. Un grand merci avant toute chose, Marcel Moreau, de nous accueillir chez vous, dans votre antre, si je puis dire, où la tête d'un taureau empaillé nous surplombe, où un violoncelle avec ses hanches féminines se tient contre lui, où des tableaux, des dessins, des photographies au mur nous entourent, où des dizaines d'objets insolites de prédilection nous rendent si chaleureux votre lieu de vie. Vous avez donc révélé ici, Marcel Moreau, dans ce logement du 15e arrondissement de Paris, beaucoup d'écriture, tant d'amour, tant de lumière de votre vérité. Une table à cet instant nous sépare. Racontez-nous en quelques mots, je vous prie, dans le début de cette émission, les trépidations et les vertiges qu'ont pu connaître ce solide meuble en bois massif.
C'est très difficile de résumer, mais il y a eu beaucoup de... Cette table a connu beaucoup d'aventures et de mésaventures, quoi. J'ai mangé là-dessus, j'ai bu, parfois forniqué aussi. Alors,
Elle a connu bien des tâches, cette table.
Oui, bien
des tâches. Des tâches de vin, oui. De cendres.
De cendres.
De sang de viande rouge, on imagine aisément.
De sang de viande rouge. À l'époque où je faisais encore de la cuisine, maintenant c'est fini. Voilà. Alors... Si je pouvais raconter ses souvenirs, ce serait intéressant, mais je la questionne parfois, je la tapote comme ça.
Elle vous répond.
Ben oui, parce que parfois elle bouge, je ne m'y attends pas du tout, elle bouge, elle glisse sur elle-même, sa petite fantaisie comme ça.
Et vos brouillons alors ? Alors, sur cette table, brouillon, il y a une multitude de brouillons, manuscrits.
Il y en a toujours eu. Dès le premier livre, et avant le premier livre, il y a eu des livres que j'ai abandonnés, que j'ai raturés, que j'ai éliminés. Et puis, avant d'arriver au premier livre, le livre fondateur, si je puis dire, c'est-à-dire Quinte.
Oui. Vous avez longtemps consacré la radiographie d'une partie de votre intestin, baptisée Dolicolon.
Dolicocolon.
Dolicocolon, pardon. Cette photographie des souterrains est-elle encore là ?
Oui, elle est classée, et là, bon, c'est pas classé monument historique, hein, mais enfin, bon, c'est une preuve, quoi, de l'importance des entrailles dans mon écriture.
Auriez-vous envie de nous lire cet extrait-là ?
Pendant longtemps, j'ai dialogué avec mon dolicocolon, colon d'une longueur excessive, Larousse. Une négociation plus qu'une causerie, c'est qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs, le chenapan, longiforme, la canaille superlative. À lui seul, tout un opéra bouffe. Voilà, ça fait des mois que ça dure, cette histoire. Moi, j'ai l'impression que c'est un obsédé sexuel. Hein.
Donc, je crois qu'il n'est jamais inutile pour un enfant de se mettre à l'écoute du ventre d'où il est né et de découvrir ainsi à quel mode de vibrations et de forces obscures, en rapport avec la puissance ou l'impuissance du langage, il a eu affaire. Pendant qu'aux yeux de la parentèle, il était plutôt considéré comme la fructification désirée d'une petite graine dans un abdomen s'arrondissant au fur et à mesure de son bourgeonnement. Donc,
pendant longtemps, j'ai dialogué avec mon dolicocolon, colon d'une longueur excessive, Larousse. Une négociation plus qu'une causerie.
Non, mais là, il faut y aller. Je ne sais pas où.
Donc, une fois l'enfant mis au monde, on aura de cesse de lui faire oublier qu'il revient d'un voyage qu'il ne refera plus jamais aux entrailles du vivant, qui sont également celles du langage, dans les ténèbres d'un corps duquel la science retient surtout qu'il est une merveille de mécanique humaine. Donc, personne ne dira à cet enfant que pendant son voyage dans les abysses constitutifs de son être, il reçut dans ses veines, ses glandes, ses cavités, ses articulations, les coulées imprévisibles d'une langue qu'il n'aura jamais assez de sa vie pour en comprendre la nature foncièrement libératrice et conquérante, sans répit en devenir et cependant infiniment immémoriale. Donc,
pendant longtemps, j'ai dialogué avec mon dolicocolon, colon d'une longueur excessive, Larousse. Une négociation plus qu'une causerie. C'est qu'il m'en a fait voir de toutes les couleurs, le chenapan longiforme, la canaille superlative. À lui seul, tout un opéra bouffe, un opéra colique, débraillé du liaïsme. Décidément, il s'en passe des choses terriblement verbales dans le secret des glandes, des tubes et des poches qui n'ont l'air que biologiques. Il s'y passe le brouillon d'un poème impitoyable qui essaimera peut-être un jour, tout en douceur ou en délicatesse de sentiment, dans l'âme d'une créature aimée ou à aimer.
Pour revenir à vos brouillons, Marcel Moreau, vos lecteurs connaissent votre écriture manuscrite grâce à des reproductions de feuilles dans des livres. Je pense à la première de couverture de votre ouvrage des Halalis dans les Alléluia, avec une encre de Pierre Leschinski sur votre page. Nous ne pouvons pas dire que les ratures se font rares dans vos brouillons. Votre écriture se tortille, se replie, se ramasse et attaque les quatre coins de la page. Mais votre regard, après tout, est peut-être différent du nôtre. Comment pourriez-vous décrire votre écriture ?
Ben c'est un regard ensorcelé déjà. C'est l'écriture, dès l'instant où je me mets à écrire le premier mot, il se passe quelque chose, quoi, comme un tremblement, un tressaillement prolongé parfois. Et ça continue. Et ça enfle parfois. Le ton baisse aussi. Ça dépend du sujet que je traite.
Tout est mouvement.
Oui, tout est mouvement. Mmh.
Je pense à votre ligne écrite dans Morale des épicentres. Vous donnez la définition du mot antécédence. L'autre jour, je suis tombée sur le mot antécédence, Larousse, géographie. Caractère d'un cours d'eau maintenant, son tracé malgré des déformations tectoniques. Cette définition à elle seule, ma destinée pourrait la faire sienne. Vous sentez-vous entièrement déformé, cabossé, Marcel Moreau ?
Ben, je me sens sujet à des déformations qui se passent dans le corps. Le corps se déforme à force d'écriture. Et en même temps, bon, il y a des zones d'accalmie qui ne vont pas jusqu'à m'immobiliser. Hein, ça bouge quand même. Ça persévère dans le mouvement. Et jusqu'au moment où je m'arrête d'écrire. Et m'arrêter d'écrire, ce n'est pas m'arrêter de penser que j'écris. Les mots continuent leur travail, même s'ils ne, ce travail ne se projette pas sur du papier, sur une page, etc. Ils sont là quand même, ils veillent, ils scrutent, ils ont des oreilles, les mots ont des oreilles, ils ont des yeux, et alors je sens leur regard qui se pose, leur nez aussi qui s'aventure dans mon corps. Et voilà.
Je rappelle quelques titres qui ont fait l'édification de votre œuvre. Quinte, Bannière de Bave, La Terre infestée d'hommes, Julie ou la dissolution, La pensée mongole, Livre. Mauromachie, Tombeau pour les enténébrés, Extase pour une infante roumaine, La vie de Jésus, Féminaire, Corpus Christi, Morale des épicentres, Nous, amants au bonheur ne croyant, La violoncelliste. Savez-vous au juste combien d'ouvrages avez-vous écrit, Marcel Moreau ?
Ben, je crois que j'en suis à 64. J'ai commencé à 65e, mais je ne suis pas très sûr d'arriver au bout. Parce que je suis en ce moment, j'ai des problèmes de santé, quoi. J'ai des problèmes de motricité, je me déplace difficilement. Et voilà.
Vous vous sentez affaibli ?
Ben, affaibli, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais ça ne ressemble pas. Mais enfin, bon, je lutte en tout cas. Les mots sont en bonne santé. Mes mots sont en bonne santé. Ils bougent, ils s'agitent, ils dansent. Mais c'est le corps qui ne suit pas, quoi.
Vous êtes peut-être fatigué de nombreux accouchements verbaux.
Ben oui, parce que quand même, quand j'ai dit que j'ai écrit 64 livres, c'est quand même 64 livres à bride abattue. Hein. Mm-hmm. Bon, je me suis pas accordé beaucoup de répit. Une fois que je suis dans la... J'ai commencé un texte, là ça continue. Je suis dans le prolongement, déjà dans le prolongement de ce texte. Je ne sais pas où il m'emmène, mais il m'emmène. Là c'est sûr, quelque part.
Vous écrivez à la main ?
Oui, à la main, tout le temps. Ça commence par la main, oui. C'est une écriture manuelle, purement manuelle, physique. Donc. Même moi, je ne parviens pas à me relire parfois. Le rythme l'emporte sur le sens des mots. Mm-hmm. Le sens, il se dévoile après, quand tout est écrit. Mm-hmm. Là, à ce moment-là, on commence à savoir que ce texte est terriblement sensé, quoi. Tout en étant vagabond et nomade et convulsif.
Et votre écriture danse. Alors, écrire, c'est danser.
Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Les mots dansent dans la tête. Avant de se projeter sur la page, il danse.
Votre écriture est minuscule.
Oui.
Et vous est-il arrivé d'abandonner des feuillets
Oui.
En ne pouvant les relire.
J'ai dû en sacrifier comme ça. Ils étaient complètement illisibles.
C'est Jean Dubuffet qui avait été fasciné par votre écriture.
Oui.
Il vous avait exposé.
Bah oui, surtout les peintres sont très attirés. C'est très curieux.
Vous aviez une admiration réciproque.
Oui, oui. Ça n'a pas été immédiat, mais à force de fréquenter Dubuffet, d'aller chez lui, de voir son travail, là j'ai adhéré, quoi. J'ai compris que on était très proches, quoi. Oui.
Dans la perception du viscéral.
C'est ça, oui, oui. Il m'avait même proposé à un certain moment de travailler pour lui, mais je lui ai dit, à Dubuffet, non, c'est pas possible. Moi, j'ai une œuvre à faire. Je ne vais pas me...
Faire une œuvre, c'est faire preuve d'égoïsme.
Ben oui, évidemment. On sacrifie aussi, hein, beaucoup. On sacrifie des amitiés, parfois des amours aussi, l'écriture. Donc... On se trouve parfois dans des dilemmes, des contradictions comme ça, qui sont difficiles à surmonter. Mais enfin, il le faut. C'est l'écriture qui l'exige. Ouais.
Alors, vous avez reçu quelques prix, Marcel Moreau, dans votre vie.
Mais êtes-vous... Bah oui, mais le plus beau des prix, c'est la correspondance. Pour moi, c'est extraordinaire. Ça vient, en général, ça vient du fond de soi, ce qu'ils m'écrivent. Hein. Il n'y a pas de diversion, de digression, là. Ils vont directement au but. C'est ça qu'ils ont ressenti et rien d'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Ils n'ont pas fait une lecture superficielle, hein. Ils se sont incorporés mes propres mots. Et alors, là, il s'est passé quelque chose de l'ordre des noces ou du mariage, comme ça, entre un lecteur et mon écriture. Le fait qu'il m'ait écrit vrai, c'est ça qui est important. On n'est pas dans les subterfuges, les euphémismes, là, c'est direct. C'est l'écriture brute, et policée en même temps.
Donc, si, au contraire, cet enfant... Dès sa croissance, prend conscience que ses origines remontent au temps, à la généalogie du langage, qu'elles en confient des incarnations à la main-d'œuvre amniotique d'une mère. Il y a de fortes chances qu'un beau jour, son esprit et ses sens entreprendront un voyage en comparaison duquel l'exploration des corps célestes lui apparaîtra comme une simple promenade de santé, si l'on peut parler de santé à propos de cette forme de crétinisme lexicographique consistant à nommer alunissage, le fait de poser le pied sur le satellite que l'on sait, ce qui suppose qu'en cas de débarquement sur d'autres planètes, il faudrait parler d'amarcissage, d'un vénusage, d'un jupitérage, et j'en passe, de ces symptômes manifestes de quelques maladies modernes causées par un fort taux de cacophonie dans le sang. Donc.
Nicole Calégaris, nous sommes au Battling Club rue de la Grange-Aubel dans le 10e arrondissement de Paris. Vous avez eu envie de parler de Marcel Moreau dans une salle de boxe. Expliquez-nous un peu pourquoi.
Oui, c'est l'idée de combat, de lutte, de combat et de corps surtout, d'écriture du corps, d'écriture incarnée et le mouvement d'assaut aussi. Voilà pourquoi une salle de boxe. Et puis un lieu qui n'est pas gentil, serein, bien coiffé.
Policier.
Oui.
Vous êtes vous-même auteur, romancière. Alors j'ai lu quelque part que vous considérez Marcel Moreau comme un maître. Qu'entendez-vous par ce mot ?
Un maître, oui. C'est-à-dire que c'est à la fois un cap littéraire, c'est-à-dire quelqu'un dont la littérature tient la barre au niveau de hauteur qu'il faut regarder. Alors donc à la fois un cap et à la fois un maître, c'est quelqu'un qui vous guide aussi, hein, c'est quelqu'un qui vous enseigne, alors non pas par un enseignement didactique ou je sais pas quoi, mais qui vous enseigne par sa propre tenue, Voilà, la tenue de sa littérature est un enseignement pour moi et une sorte de guide.
Vous pourriez dire qu'il est un écrivain monstre ?
Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, un écrivain monstre ? Lui-même, il parle beaucoup du monstre en lui. Enfin, lui-même, encore une fois, si je parle toujours de ses livres. Hein. Mais un écrivain monstre, ça, je ne sais pas ce que ça voudrait dire.
Ça voudrait dire qu'un écrivain qui est dans l'outrepassement des limites, qui est dans le viscéral,
qui est
en... Si vous le considérez comme un maître, il a, en tout cas, à vos yeux, quelque chose d'inégalable.
Oui, il est inégalable. Quant à la part de monstruosité, c'est peut-être ça l'enjeu de la littérature. C'est peut-être ça la vérité. La vérité, je parle de vérité replacée évidemment à l'intérieur du champ littéraire. Mais c'est peut-être ça la vérité de la littérature. C'est peut-être d'engager ça, d'engager ce monstre. Et c'est ça qui nous désole dans la plupart de ce qui paraît en littérature aujourd'hui. C'est qu'il n'y a pas d'engagement du monstre, peut-être, justement.
Donc, la société se garde bien de traiter de la natalité en ces termes. Donc, elle préfère s'en tenir, sur ce sujet, aux clichés habituels concernant la continuité de l'espèce. Donc, ce qu'on demande à l'enfant... Sitôt qu'on l'initie à la conversation, c'est, au nom de la raison, de faire comme s'il ne lui restait rien, ou presque rien, dans les entrailles du voyage de 9 mois qui le précipita au centre d'une recréation du monde à son image, vagissement compris. Donc, on prendra soin de lui dissimuler qu'il vient d'un chaos initial, ouvragé au fil du temps par un instinct ayant des centaines de milliards d'années d'avance sur l'intelligence humaine, dans son génie d'arracher de l'être au néant. Donc, voilà pourquoi le mot « entraille » a mal à sa sonorité. Donc, voilà pourquoi je dis qu'entraille est un mot malheureux de n'être pas né musical, marqué qu'il fut dès sa conception par une tare indélébile, comme d'ailleurs beaucoup de mots en aille, le rendant impropre à l'esthétisme. Donc...
Revenons maintenant aux origines. Marcel Moreau, on lit partout que vous êtes un écrivain belge de langue française. Or, c'est faux. Vous êtes un écrivain français d'origine belge.
Voilà.
Vous avez été naturalisé français en 1970.
Oui.
Vous êtes né à Boussu, dans la province de Hainaut, en 1933, dans la région minière du Borinage. Alors, que vous ont révélé les paysages du Borinage ?
Déjà, je sentais une complicité avec les... Mon écriture, en tout cas, ressentait une complicité entre les galeries de mines et l'écriture proprement dite, quoi. J'avais l'impression, au début, que j'errais, tout en écrivant, dans des fosses, des houillères, quoi. Et je passais de houillère en houillère, comme ça. Mon stylo, c'était une lampe du mineur, quelque part. Et c'est après que ça s'est éclairci, quoi.
Donc, voilà pourquoi, hormis le fait que dans la prière mariale, où il est question du fruit de vos entrailles, associé à fruit, il en acquiert la dimension d'un sacré, ce mot se trouve... systématiquement exclu autant des discours savants que des envolées poétiques. Donc, c'est ainsi que je peux écrire, à la lumière de mon amour des mots, lequel s'exerce davantage sur leur intériorité signifiante que sur leurs abords mélodieux, si précieux me soient ces derniers lorsqu'il s'agit pour moi que chante d'une même voix la violence de la prose et la mélodie de ses intimes inflexions, que je peux écrire. Donc, qu'il en va des injustices linguistiques comme des injustices sociales. Elles résultent, le plus souvent, d'une inégalité des antécédents, des atavismes, non des valeurs intrinsèques au départ de la vie. Donc, m'est avis qu'à une autre époque, quand on appelait un chat, et fossoyeur, l'ordonnateur des pompes funèbres d'aujourd'hui, le mot entraille sonnait puissamment à l'oral comme à l'écrit, au contenu comme au contenant, telle une possibilité de rime riche, bien qu'odoramment viscérale, dans la composition, par exemple, d'un sonnet.
Denis Lavant, nous sommes à côté de la place d'Aligre pour évoquer l'œuvre de Marcel Moreau, sa personne et le lien qui vous unit. Marcel Moreau est né à Boussu dans la province de Hainaut, dans la région minière du Borinage. Pensez-vous que les origines belges de Moreau lui ont permis d'avoir une sensibilité particulière au traitement de la langue française ?
Oui, sans doute. Parce que moi, j'ai beaucoup été vers les auteurs belges, où c'est eux qui sont venus vers moi. Et dès le début, j'ai eu affaire au théâtre, dans les groupes amateurs, à Michel de Gelderode. J'ai eu affaire à Michaud, très tôt, quoi. J'ai découvert cette littérature-là. C'est une culture qui est parallèle à la culture française, quoi, qui est de langue française, mais en même temps qui se permet beaucoup plus de liberté. Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Il y a une sorte de chose baroque qui vient de l'occupation espagnole, qui vient de Charles Quint, qui vient de cette gémellité un peu forcée entre l'Espagne et puis la Flandre et puis l'Espagne. Et donc il y a quelque chose de qui est ailleurs, qui est dans une autre couche, que je perçois complètement chez Henri Michaud, que je perçois complètement aussi chez Marcel Moreau. C'est d'aller chercher dans une autre strate du langage, donc de la sensation, de la sensibilité, de même une cérébralité qui est ailleurs. Mais quelque chose qui est beaucoup plus libre, parce que qui est moins prétentieux, qui est moins dans une sorte de volonté de tenir un cap, d'affirmer une suprématie culturelle, un dictat un peu de la langue. Donc il y a une sorte de liberté d'utiliser cette langue pour la faire jouer, pour la faire jouir, en fait, ce qui arrive très bien à faire Marcel, justement. C'est presque par là qu'il passe. Et puis de parler d'être dans un rythme, d'être dans une cadence.
Je vois accrochée derrière vous une plaque en métal, Marcel.
Oui.
Avec une grande inscription Boussu.
J'ai travaillé à l'âge de 15 ans dans une robinetterie à Boussu, mon village natal. Et c'était en fait une ancienne usine de locomotives. Et c'était une plaque qu'on a posée sur les portières des locomotives. Ils fabriquaient des locomotives à ce moment-là. Moi, je n'ai pas connu cette époque-là, mais ensuite, le lieu de... L'atelier, il a été racheté par une fabrique de robinetterie. Donc j'ai travaillé pour un robinetier.
À 15 ans.
Oui.
Donc adolescent, Marcel Moreau, vous avez fait plusieurs petits boulots, comme on les nomme.
Oui.
Après la robinetterie, je crois que vous avez connu la comptabilité.
Oui, j'ai fait une année... C'était le désir de ma mère. Elle voulait me sortir de la classe ouvrière. Mon père était couvreur. Et alors, elle rêvait que je devienne un employé de bureau, précisément un comptable. C'était son rêve, que je devienne comptable. Et pour lui faire plaisir, j'ai fait une année de comptabilité. Je n'y comprenais rien aux chiffres. Il n'y a que les mots qui m'intéressaient. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Et alors, à un certain moment, j'ai lu une annonce dans un journal qu'on demandait un correcteur. Je savais pas très bien ce que ça voulait dire, correcteur. Je savais au moins que ça concernait la langue française. Alors, j'ai posé ma candidature. on m'a pris à l'essai et on m'a gardé. Au journal le soir. Ouais. Pour moi, c'est une période infernale que j'ai vécue là. Hein. Il était temps que j'en sorte. Et j'avais une haine pour un chef, je sais pas comment, un espèce d'ingénieur. Là. J'en pouvais plus, quoi. Et j'ai trouvé le même emploi, mais à Paris. Et là, ma vie a complètement changé, quoi.
Mais quand vous étiez au soir, vous écriviez « Ce royaume se révèle minable », c'était les mots des autres, « pauvre, hâve, grouillant, sans grâce ».
Là, on est dans la correction, on n'est plus dans la comptabilité, mais en même temps, l'écriture journalistique m'est hérissée, quoi, parce que c'est quand même... je rêvais d'une autre écriture, quoi, plus poétique, peut-être plus brutale aussi.
Quelles étaient vos lectures, adolescents ?
Il n'y avait pas de livres chez moi, pas de disques, il n'y avait rien du tout. Même, je lisais à cette époque-là les Péniclés, ou Tintin. Puis à la mort de mon père, j'ai ressorti une espèce de gravité comme ça, et je suis dirigé instinctivement, sans le conseil de personne, vers d'autres livres. Et là, c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Dostoïevski, et puis plus tard Nietzsche. C'était des livres d'occasion, bien sûr, parce que j'avais pas d'argent pour payer d'autres. Et là, ça a changé aussi beaucoup ma vie, quoi. Là...
Revenons à votre père. Votre père s'appelait Nazer.
Oui.
Il était couvreur, comme
oui.
Vous l'avez dit. Et il est mort, vous aviez 15 ans.
C'est ça. Il est tombé du toit. Il n'était jamais tombé. Et la seule fois où il est tombé, ça a été fatal, quoi. Et c'était une grande tristesse, parce que j'aimais beaucoup mon père.
Il vous a manqué ?
Ah oui. Et il m'a manqué. En même temps, comme j'ai dû interrompre mes études à l'époque, j'ai eu l'impression qu'il est parti en se disant que j'étais un bon à rien. Voilà. Je l'avais déçu, probablement, parce que j'avais eu de mauvais résultats. J'avais fait le clown la dernière année d'études. J'avais fait rire tout le monde. Hein. Et alors, j'ai eu de très mauvais résultats. Je devais redoubler. Mon père m'a dit, calmement, tu sais, je n'ai pas les moyens de te faire redoubler. Alors, tu vas travailler. Et j'ai compris ce langage. C'était juste un langage juste. Je ne méritais rien d'autre que ça. Et j'ai accepté de travailler. Il fallait que je nourrisse ma mère, hein, puisque ma mère était ménagère, elle n'avait pas de métier.
Et vous avez écrit dans Égobiographie tordue, « Mon père ne s'est pas battu, sa mort a fait de moi un lutteur ».
Oui.
Pourquoi ne s'est-il pas battu, selon vous ?
Parce que je ne sais pas, c'est la résignation. Hein. On accepte son sort de génération en génération. C'était une famille de couvreurs. Et il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de syndicats comme maintenant. Voilà, donc mon père, il faisait tout son possible pour amener de l'argent à la maison, mais c'était toujours quand même une condition de pauvre, quoi.
Croyez-vous à la pensée commune qui dit que tout style de l'écrivain est toujours la conséquence d'un traumatisme originel ?
Je ne me suis jamais posé la question là-dessus, parce que ça nous entend très loin, et ça pourrait m'entraîner dans la psychanalyse, et j'ai horreur de la psychanalyse.
Et pourtant, vous avez écrit « La mort de mon père met fin à mon inconscience ». Tout ce qui l'a précédé a été l'enfance des sens. Tout ce qui la suivra sera l'enfance du verbe.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est très fort, c'est oui, une déclaration.
Ah oui, oui, oui. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de faire une étude psychanalytique ou autre. Hein, c'est comme ça, quoi. J'ai toujours agi par instinct, de toute façon, moi. Hein. Je n'avais pas beaucoup de raisons. Hein, j'étais pas un être, le moins qu'on puisse dire, un être rationnel. Donc je comptais sur mes instincts pour m'indiquer le chemin, quoi. Ah.
Vous avez toujours désiré la révolte sensorielle contre la logique cérébrale.
Oui.
C'est pour cela que vous aimez peu l'homme éduqué, Marcel Moreau.
Ça dépend de quelle éducation on parle. Je pense, par exemple, que en écrivant comme j'écris à la longue, je pense que ma manière d'écrire m'a humanisé. Voilà. Ça, oui, je pense.
Vous lancez la formule d'un moral des épicentres, le corps charnel dans le corps verbal. Elle ne vous a pas quitté, cette formule?
Ah non, 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 pas du tout. Ah non, non.
Pour vous, l'instinct...
J'ai très peu de convictions inébranlables dans la vie, mais celle-là, je l'ai quand même.
Pour vous, l'instinct n'est pas un défoulement?
Mais évidemment qu'il y a de mauvais instincts, je suis le premier à le savoir. Mais enfin, ce n'est pas que ça. C'est la fameuse formule cartésienne, le souverain bien, en parlant de la raison, le souverain bien. Alors, tout le reste, c'est quoi alors? On n'est pas né avec de la raison. La nature n'est pas née avec de la raison. Elle est née aussi de acéphale, la nature. Alors, il y a bien un mystère, là, quelque part. Et ce mystère, c'est la force créatrice des instincts, dès lors qu'ils sont éclairés. Voilà.
Alors, Marcel Moreau, quand on a lu votre premier livre, Quinte, on comprend qu'il y a un principe d'abondance, hein, qui ne vous a jamais quitté. Et quel regard portez-vous aujourd'hui sur Quinte? Et pensez-vous avoir mis un point final à Quinte, 50 ans après?
Non, non, on trouve des séquelles de Quinte dans d'autres livres. Hein. Il m'a coûté 7 années de travail, parce que j'ai déchiré des manuscrits aussi qui étaient censés être les premiers. Donc avant d'arriver à Quinte, voilà, il s'est passé 7 années d'écriture frénétique. Parce que je n'ai pas appris à écrire, enfin, c'est-à-dire que j'ai pas eu de beaux exemples, sauf les livres que je lisais, ils étaient bien écrits, c'était rassurant pour moi, mais en même temps, je me disais, il y a quelque chose qui se passe là, qu'on ne me dit pas, on me cache quelque chose. Même les plus beaux livres, ils me cachent quelque chose comme ça, et ça me satisfaisait pas.
Mais pourtant, comme vous l'avez dit, Nietzsche a été pour vous
un libérateur. Oui, il ne faut pas oublier que Nietzsche, c'est probablement le seul philosophe qui parle des instincts. Il a une phrase extraordinaire sur les instincts, comme ça. Ça m'a éclairé brusquement, comme ça. C'est comme une illumination.
Nietzsche a parlé à votre chair.
Il a parlé à ma chair, ah oui.
À vos tripes.
Ah oui, absolument. Et venant d'un intellectuel de génie comme lui, c'était important pour moi. Au début, la langue française se présentait à moi comme une grande dame aristocratique que je ne pouvais pas draguer, par exemple. Elle était presque inaccessible pour moi. Je me disais, il faudrait que je me crée un langage, une langue comme ça, qui soit respectueuse de la langue française, mais en même temps qui n'ait rien à voir avec, vraiment, fondamentalement, viscéralement avec elle, quoi. Donc, voilà. Je pense que la caractéristique de mon écriture, c'est que elle ne se pose pas quelque part, n'est-ce pas? Elle n'atterrit jamais, quoi. Elle rebondit. Aussitôt qu'elle tombe, elle rebondit. Voilà, c'est ça. C'est un mouvement comme ça, qui était à la fois répétitif et innovateur, quoi.
Vous êtes un faiseur de néologismes.
Ouais, j'en ai fait quelques-uns, mais toujours quand même sans exagérer, parce qu'il ne faut pas abuser des néologismes. J'ai créé le mot chaos naissance, par exemple. Ça, c'est un néologisme qui s'impose à moi. Voilà. Chaos naissance, la connaissance du chaos, la connaissance par le chaos, hein, parce que c'était de la convient, quoi. Donc, cet ingrédient chaotique était nécessaire dans l'usage que je faisais de la langue française. Un accouchement, ça ne se passe pas non plus dans la tranquillité. Il y a déjà une violence quelque part, là, n'est-ce pas? Dans le texte que j'ai baptisé un livre La violence est liste. Parce que toujours l'obsession de la musique, tout ça. Bon. Et j'en avais fait une pièce de théâtre que d'ailleurs Denis Lavant a interprété magistralement, parce qu'il n'y a pas plus beau lecteur de mes livres, enfin diseur de mes livres que lui, quoi. Je sais plus ce que je voulais dire là.
Denis Lavant, à lire Marcel Moreau, on est souvent saisi par le fait que chaque mot contient un chant à lui seul. Je pense maintenant au texte Donc. Que pouvez-vous nous dire de ce texte que vous avez lu ?
Il m'a dit, essayé d'écrire une pièce pour toi. Et en fait, il a essayé d'écrire une pièce dans laquelle il affirme son impossibilité à écrire une pièce. Ce qui est assez comique, mais je ne l'ai pas joué encore, je l'ai lu à plusieurs reprises en public. C'est comme une conférence, en fait. C'est un conférencier qui voudrait parler d'une pièce dont les protagonistes seraient le verbe et le corps et le verbe.
En fait, ce texte a été publié dans un ouvrage qui s'intitule « La violence est liste » chez De Noël en 2011. Il écrit donc « Essai de pièce théâtrale à deux personnages en un seul, verbe et rythme. »
Ah, le verbe et le rythme.
« Et dont la respiration a pour effet de faire tomber les didascalies comme des mouches. »
Voilà.
À Denis Lavant.
Ah oui. Mais je suis très honoré. Et puis en même temps, je devrais le lire encore. Il faudrait que je remette en train, quoi. Et moi, ce que j'ai trouvé admirable là-dedans, c'est... Et c'est comme la plupart des textes de Marcel, il mérite d'être proféré, parce que c'est... En fait, c'est une telle respiration organique qu'il y a dans son écriture que ça fait du bien. Ça remet droit, en fait. Et ça, et c'est, en même temps, c'est un texte qui est dense. Ça demande de l'énergie, quoi, pour le faire sur scène. Mais en même temps, à chaque fois que je l'ai fait, ça m'a galvanisé, même en le répétant, en le disant chez moi à voix un peu basse, mais en le respirant quand même. Il y a une cadence qui fait du bien. Marcel, c'est une langue qui pulse, qui bat comme ça, et puis qui respire. Donc c'est de la prendre en charge, ouais, ça fait beaucoup de bien.
J'attribue une bonne part de ma santé à cette écriture. Je crois que je serais mort depuis longtemps si... Mais mon corps n'avait pas développé des énergies verbales de cette sorte-là.
Vous pensez que c'est la rage d'écrire qui vous a sauvé ?
Oui, je continue et je persiste à croire que l'écriture vécue intensément, vraiment, elle peut vous transformer une mauvaise santé en une bonne santé.
Et si... Une réalité extérieure vous avait empêché d'écrire, justement.
Comment ?
Si une réalité extérieure vous avait empêché d'écrire.
Ah bah oui, mais là c'est pas imaginable. Voilà, c'est ça ou le suicide. Mm-hmm. Ah oui.
J'ai le sentiment que le corps de l'écrivain et le texte sont au fond une seule et même entité, si je puis dire. Son texte, c'est son corps. J'ai l'impression. Voilà, j'ai l'impression c'est intéressant de le lire comme ça, comme la production d'un corps textuel.
Alors Nicole Calgaris, Marcel Moreau, on le sait, a brûlé pour la femme, le verbe et la connaissance. Je crois que vous avez envie de nous lire un extrait de Mauromachie,
oui,
publié chez Buchet-Chastel.
Mais toi, tu es belle et je t'aime, et c'est la simplicité de ces mots qui me fait peur. Dans la nuit où je suis avec toi, qui n'est pas celle où je suis avec eux, et il faut prendre ce désir que nous avons l'un de l'autre tel qu'il est, énorme, irrépressible, engluant et constellant, et en faire un bouclier contre les mots qui trépignent, les mauvais mots, les traîtres mots, les salauds, les renégats, les tortionnaires de ma vie. Et je m'en fous que ce livre ne soit pas bien construit, avec des phrases bien léchées, selon une architecture délectable, le type romanesque. Mais c'est un combat contre la mort, et ça devrait vous en dire long, à vous, les morts vivants. Et qui ne comprend pas que j'en sois arrivée si bas, ne comprend rien à ce que fut très tôt ma conception de l'écriture, quelque chose qui ne vous laisse pas de repos.
qui embrasse à mots perdus toutes les suavités et toutes les misères de la vie et qui finit par vous insuffler les ténèbres par toutes les embouchures, par vous enfoncer la gueule dans le merdier irrémédiable où pas un homme, pas un paysage, pas une phrase n'échappe à la dégringolade générale des valeurs. Et c'est ça, le nœud du désespoir. En dépit de ce qu'il a précédé, une existence pleine à ras-bord, des livres qui sont des leçons de vie et de pessimisme vital, une santé qui en a marre d'encaisser sans se rompre et plier un genou, l'orgie des sensations bizarres, extravagantes, incongrues. Et si ce n'est pas ça, la vraie littérature, je me demande où elle est, bon Dieu, et je t'aime, Génia, tu es belle, et c'est la simplicité de ces mots qui me fait peur dans la nuit où je suis avec toi, et qui n'est pas celle où je suis avec eux.
C'est une écriture de l'excès.
Oui, c'est une écriture de l'excès, là je pense que vraiment on ne peut pas dire le contraire.
C'est ce qui vous plaît.
Ah oui, 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 ah oui, complètement.
L'exubérance vitale.
Exactement, exactement, c'est ça. C'est la fusion de la vie. Ouais. Oui, oui.
Et cette quête de beauté également ?
Oui, musicalement. C'est-à-dire dans cette langue qu'il utilise, qui est une langue où chaque mot est aimé. Ça, c'est très beau. Où chaque mot conduit au-delà la vision qui est en train de se construire. Hein. Chaque mot est quelque chose qui emporte un peu au-delà, un peu plus loin. Un peu plus étrangement, qui éveille l'attention, qui éveille la vigilance, voilà. Ça, c'est la beauté chez Marcel Moreau. Et puis la musique, la musique, la musique.
On va parler un peu de votre mère.
Oui.
Car votre père, en effet, est décédé, vous aviez 15 ans. Et vous avez eu de nombreux conflits avec votre mère, je crois. Et pourtant, cette mère, vous l'avez ménagée.
Oui, je sais pas, le fait que j'ai soigné de son ventre, dans ses entrailles, j'avais un certain respect, j'avais beaucoup de respect pour elle, un respect filial. Et il y a des moments où je me disais, bon, c'est pas possible que toutes les femmes soient comme elle, parce que sinon, je sais pas ce que je deviendrais. Et alors, j'ai eu beaucoup de conflits avec elle. Elle était très jalouse, très possessive. Elle me surveillait. Enfin, elle se faisait de moi une image un peu... brave garçon, bon garçon, exemplaire, et tout ça. Bon. On parlait de bureau, entre autres. Et un jour, au cours d'une réunion de famille, elle a lu un poème. Je ne savais même pas qu'elle connaissait ce poème. Un poème de Victor Hugo. Et elle l'a lu avec des accents extraordinaires. Je ne sais pas d'où elle sortait ça, mais c'était vraiment très beau. Et je me suis dit, cette femme, je lui pardonnerai beaucoup, rien que pour ça. Et j'ai tenu parole. Elle était comme ça, elle pouvait être abominablement injuste et en même temps immensément généreuse. Voilà.
Vous étiez déjà dans la violence de l'amour.
Oui, c'est ça. Je me souviens que elle m'a infligé une blessure incroyable. Un jour, sur le marché de mon village, c'était son anniversaire ou la fête des mères, je ne sais plus. J'avais acheté un bouquet de fleurs, mais artificiel, parce que c'était beaucoup moins cher. Je n'avais pas d'argent, moi. Je recevais 2-3 sous... par semaine, comme ça, et je l'utilisais à l'achat de livres d'occasion. Et alors, quand je lui ai tendu le bouquet de fleurs artificielles, elle l'a pris dans les mains, et une seconde plus tard, elle me le lançait à la tête. Elle m'a dit, ici, il n'y a pas de fleurs artificielles qui entrent ici. Alors là, c'est une blessure. Hein. Ouais. Mais je l'ai pardonné.
Vous l'avez aimé, votre mère ?
Ben oui, à ma façon. Hein. Ma façon, j'ai aimé certaines femmes aussi qui me causaient beaucoup de tourments.
Mais il fallait surmonter ces tourments, parce que derrière ces tourments, sous ces tourments, il y avait une intra-utérinité qui me bouleversait, qui me désarçonnait, et de je faisais grand cas.
Chez vous, Marcel Moreau, l'autobiographie n'est pas une biographie de soi, mais du mot. Pour comprendre votre œuvre, il faut la voir telle une biographie du verbe, une chronique constante du verbe. Le verbe vous a-t-il déjà tué par amour ?
Non, il m'a affaibli par amour. Quand l'amour et le verbe vont bien ensemble, c'est toujours une période très délicate à vivre. Ou bien ça marche très bien, ou bien ça peut marcher mal.
Mais quand même, vous n'êtes pas épuisé à ce point.
Bah non, non. C'est l'épuisement physique, surtout là, en ce moment, c'est ça qui... L'épuisement littéraire, l'épuisement verbal, il n'est pas encore arrivé. Voilà. Je crois que sur mon lit de mort, je crois que je vais quand même rugir à beaucoup.
Une dernière fois. Quand on a vécu comme vous l'avez fait, comme un torrent, comme un volcan, comme un cri, le sentiment de solitude est-il grand ? Est-il aussi démesuré que l'ardeur à vivre et à mourir ?
En tout cas, j'ai pas l'impression j'éprouverais un grand regret à disparaître. D'ailleurs, j'ai rédigé mon épitaphe déjà et...
Quelle est-elle ?
Eh bien, je suis heureux pour la première fois de ma mort. Voilà.
Le rire a été très présent dans votre œuvre.
Ben oui, mais c'est pas toujours un rire éclatant, quoi. C'est pas un rire à gorge déployée. Moi, je crois au fou rire intérieur. Pas tellement démonstratif, quoi.
Préférez-vous que l'on dise que vos pages ouvrent des blessures ou offrent la jouissance ?
Ce serait bien si vous pouvez penser que mon écriture donne du courage et de la volonté. Alors que souvent, à notre époque, on est dans le rabaissement, dans le minimum vital. Parce qu'on peut me reprocher beaucoup de choses, parce qu'on peut me reprocher d'écrire des choses, des insanités, ou je sais quoi encore, mais on ne peut pas me reprocher de ne pas pousser le lecteur à se dépasser. Là, j'en ai fait ma règle de vie, et c'est ce que j'aimerais transmettre. Quand quelqu'un que je ne connais pas se met à me lire et à aimer ce que j'écris.
Vous pourriez dire que l'épuisement a fait corps chez vous, en vous ?
Oui.
Parce que les débordements induisent forcément un épuisement.
L'épuisement, oui. Oui, mais c'est bon signe, un épuisement. Surtout de cette façon-là, s'épuiser de cette façon-là, être désarçonné de cette façon-là. C'est très porteur, quoi. C'est très soulevant. L'écriture soulevante. Il faut que l'écriture me soulève et, si possible, qu'elle soulève le lecteur. Alors, on a gagné tous les deux quelque chose.
C'était Marcel Moreau, Le possédé des mots, avec Denis Lavant et Nicole Caligaris. Extrait de Corpus Christi, donc, nous amants au bonheur ne croyant, Moreau Machi. Attachée d'émission, Christine Bernard, Alison Sinard. Productrice coordinatrice, Irène Omelianenko. Un documentaire de François Test et Laurine Rousselet pour Sur les Docs.